Intermède 14. Taravangiane. Taravangiane, roi de Carbrant, se réveilla avec les muscles raides et le dos endolori. Il ne se sentait pas stupide. C'était bon signe. Il s'assit en geignant. Ses douleurs étaient désormais constantes, et ses meilleurs guérisseurs ne pouvaient que secouer la tête et lui assurer qu'il était en forme pour son âge. En forme. Ses articulations craquaient comme des bûches dans le feu, et il ne pouvait pas se lever rapidement sous peine de perdre l'équilibre et de basculer à terre. Vieillir réellement revenait à subir la trahison suprême, celle de son propre corps. Il s'assit dans son lit de camp. L'eau clapotait doucement contre la coque de sa cabine, et une odeur de sel imprégnait l'air. Il entendait cependant des cris non loin de là. Le navire était arrivé à l'heure. Parfait. Tandis qu'il s'installait, un serviteur, muni d'une table et un autre d'une serviette chaude et humide, approchèrent afin qu'il s'essuie les yeux et les mains. Les testeurs du roi patientaient derrière eux. Depuis combien de temps Taravangiane ne s'était-il pas retrouvé seul? Vraiment seul? Pas depuis l'apparition des douleurs. Maben frappa à la porte ouverte, apportant le repas matinal du roi sur un plateau, une bouillie de graines épicées. C'était censé être bon pour sa constitution. Elle avait un goût d'eau de vaisselle. Une eau de vaisselle insipide. Maben s'avança pour déposer le repas, mais Mral, un Thaïlen à la cuirasse de cuir noir qui portait le crâne et les sourcils rasés, l'arrêta en lui posant la main sur le bras. « Les tests d'abord, » déclara-t-il. Taravangiane leva les yeux et croisa le regard du colosse. Mral était capable de dominer une montagne de toute sa hauteur et d'intimider le vent lui-même. Tout le monde le prenait pour le chef des gardes du corps de Taravangiane. La vérité était plus dérangeante. Mral était celui à qui il revenait de décider si Taravangiane allait passer la journée en tant que roi ou prisonnier. « Vous pouvez tout de même le laisser manger d'abord !» protesta Maben. « C'est une journée importante, » répondit Mra à la voix basse. « Je veux connaître le résultat du test. » « Mais il est en droit de l'exiger, Maben, » intervint Taravangiane. « Finissons-en. » Mral recula et les testeurs approchèrent. Un groupe de trois fulgiciens vêtus de robes et de bonnets résolument ésotériques. Ils présentèrent une série de pages couvertes de chiffres et de glyphes. C'étaient les variations du jour sur une suite de problèmes mathématiques à la complexité croissante, conçus par Taravangiane lui-même pendant l'un de ses meilleurs moments. Il prit sa plume entre ses doigts hésitants. Il ne se sentait pas stupide, mais d'un autre côté, ce n'était jamais le cas. Ce n'était que lors des pires journées qu'il reconnaissait immédiatement la différence. Ces jours-là, ses pensées lui paraissaient embourbées dans un épais goudron, et il se sentait prisonnier à l'intérieur de son propre esprit, conscient d'une profonde anomalie. Fort heureusement, ce n'était pas l'un de ses jours. Il n'était pas complètement idiot. Au pire, il serait simplement très bête. Il se mit au travail et résolut autant de problèmes mathématiques qu'il le put. Ça lui prit près d'une heure, mais dans l'intervalle, il parvint à estimer ses capacités. Comme il l'avait soupçonné, il n'était pas terriblement intelligent, mais il n'était pas stupide non plus. Aujourd'hui, il était dans la moyenne. Ça ferait l'affaire. Il rendit les problèmes aux fulgiciens qui se consultèrent à voix basse. Puis, ils se tournèrent vers Mral. « Il est apte au service, » proclama l'un d'entre eux. « Il n'est pas autorisé à ajouter de commentaires au diagramme, mais il est autorisé à interagir sans surveillance. Il est autorisé à changer la politique du gouvernement tant qu'il y a un délai de 3 jours avant que les changements ne prennent effet. Et il est également libre de formuler des jugements lors des procès. » Mral hocha la tête et se tourna vers Taravangiane. « Acceptez-vous cette évaluation et ces restrictions, Majesté ?»« Oui. » Mral hocha la tête, puis recula, et laissa Maben déposer le repas matinal de Taravangiane. Le trio de fulgiciens rangea les papiers qu'il avait remplis, puis ils se retirèrent vers leur propre cabine. Les tests étaient une procédure extravagante qui consommait chaque matin un temps précieux. Malgré tout, c'était le meilleur moyen qu'il ait trouvé de faire face à son état. La vie pouvait être difficile pour un homme qui se réveillait tous les jours avec un niveau d'intelligence différent. Surtout quand le monde entier pouvait dépendre de son génie ou risquer de s'effondrer à cause de sa stupidité. « Comment vont les choses là-dehors ?» demanda Tara Vangiane en chipotant avec son repas, qui avait refroidi pendant les tests. « C'est affreux !» déclara Mral avec un sourire. « Exactement comme nous le voulions !»« Ne prenez pas plaisir à ces souffrances, » répliqua Tara Vangiane. « Pas même quand elles sont nées de notre main. » Il prit une bouchée de bouillie. « Surtout quand elles sont nées de notre main. » « Comme vous le souhaitez, je ne le ferai plus. »« Pouvez-vous réellement changer si facilement ?» demanda Tara Vangiane. « Éteindre vos émotions à volonté ?»« Bien entendu, » répondit Mral. Quelque chose dans cette idée titillait Tara Vangiane, suscitait son intérêt. S'il avait été dans l'un de ses jours de génie, il s'en serait peut-être saisi. Mais, aujourd'hui, il sentait les pensées lui échapper comme de l'eau entre ses doigts. À une époque, il s'inquiétait de ses occasions manquées, mais il avait fini par faire la paix avec cette idée. Les jours d'intelligence, avait-il appris, induisaient leurs propres problèmes. « Laissez-moi voir le diagramme, » demanda-t-il. Tout ce qui pouvait détourner son attention de cette bouillie qu'on insistait pour lui servir était bon à prendre. Mral s'écarta pour laisser approcher Adrotagia, chef des érudits de Tara Vangiane, muni d'un épais volume relié de cuir. Elle la posa sur la table devant lui, puis s'inclina. Tara Vangiane posa les doigts sur la couverture reliée, éprouvant un moment de... déférence ? Était-ce bien ça ? Dieu était mort, après tout, et le vaurinisme était par conséquent une imposture. Ce livre, en revanche, était bel et bien sacré. Il l'ouvrit à l'une des pages marquées à l'aide d'un roseau. Des gribouillages frénétiques, grandiloquents, majestueux, qu'on avait méticuleusement recopiés depuis les murs de son ancienne chambre. Des croquis disposés les uns au-dessus des autres, des listes de chiffres qui semblaient n'avoir aucun sens, des lignes innombrables rédigées d'une écriture en pattes de mouche. Une preuve de folie et de génie. Ici et là, Tara Vangiane trouvait des indices laissant penser que cette écriture était la sienne. La courbure des lignes, la façon dont il écrivait le long du bord des murs, un peu comme il le faisait le long du bord des pages quand l'espace lui manquait. Il ne se rappelait rien de tout ça. C'était le produit d'une vingtaine d'heures de démence lucide, le niveau d'intelligence le plus grand qu'il ait jamais connu. « Ne trouvez-vous pas curieux, Adro ?» demanda Tara Vangiane à l'érudite. « Que le génie et l'idiotie soient tellement semblables. »«
Semblables ?» demanda Adrotagia.
« Vargo, je ne les trouve absolument pas semblables. » Adrotagia et lui avaient grandi ensemble, et elle l'appelait toujours par son surnom d'enfance. C'était là quelque chose qu'il appréciait. Ça lui rappelait une époque plus ancienne que tout ça. « Lors de mes jours les plus stupides comme les plus incroyables, » répondit Tara Vangiane, « je suis incapable d'avoir de véritables interactions avec mon entourage. C'est comme si je devenais un rouage qui ne parvient pas à s'emboîter dans ceux qui tournent à côté de lui. Peu importe qu'il soit trop petit ou trop grand, l'horloge ne fonctionnera pas. »
« Je n'y avais pas réfléchi, » déclara Adrotagia.
Lorsque Tara Vangiane connaissait ses jours de profonde stupidité, on ne l'autorisait pas à quitter cette pièce. C'était les jours qu'il passait à baver dans un coin. Lorsqu'il avait simplement l'esprit émoussé, on le laissait sortir sous surveillance. Il passait ces nuits-là à pleurer pour ce qu'il avait fait, conscient que les atrocités qu'il commettait étaient importantes, mais sans comprendre pourquoi. Lorsqu'il était idiot, il ne pouvait pas mettre en œuvre de changement de politique. Il avait pris sa décision après une journée de génie où il avait pensé remédier à tous les problèmes de Carbrandt à l'aide d'une série d'édits tout à fait rationnels,
comme imposer aux gens de passer un test d'intelligence conçu par lui-même avant d'être autorisé à se reproduire. Tellement brillant d'un côté, tellement stupide de l'autre. Est-ce là votre plaisanterie, veille-nuit ? Se demanda-t-il. Est-ce la leçon que je suis censé apprendre ? Vous souciez-vous vous-même de leçons ? Ou agissez-vous uniquement pour vous amuser ? Il reporta son attention sur le livre, le diagramme, ce plan grandiose qu'il avait conçu lors de ce jour unique d'intelligence sans pareil. Cette fois-là aussi, il avait passé la journée à regarder fixement un mur. Il y avait écrit. Tout en jacassant et en établissant des liens qu'aucun homme n'avait encore jamais établis, il avait griffonné partout sur ses murs, sur le sol, et même sur des sections du plafond qu'il parvenait à atteindre. La majeure partie avait été rédigée dans un alphabet étranger, un langage qu'il avait lui-même conçu. Car les alphabets qu'il connaissait étaient incapables de transmettre les idées assez précisément. Fort heureusement, il avait pensé à graver une clé sur le dessus de sa table de chevet, faute de quoi il ne serait jamais parvenu à déchiffrer son chef-d'œuvre. Il parvenait à peine à le comprendre de toute manière. Il parcourut quelques pages, recopiées précisément depuis sa chambre. Adrotagia et ses érudits avaient inscrit des notes ici ou là, offrant des théories sur ce que pouvaient signifier les différents dessins et listes. Il les rédigeait dans l'alphabet féminin que Tara Vangian avait appris des années auparavant. Sur l'une des pages, les notes d'Adrotagia indiquaient que l'illustration qui y figurait semblait représenter la mosaïque du sol du palais Véden. Il s'arrêta sur cette page. Elle avait peut-être un lien avec les activités de cette journée. Malheureusement, il n'était pas assez intelligent aujourd'hui pour déchiffrer grand-chose du livre ou de ses secrets. Il devait partir du principe que son alter ego intelligent ne se trompait pas dans ses interprétations du génie de son alter ego encore plus intelligent. Il referma le livre et posa sa cuillère. Mettons-nous au travail. Il se leva et quitta la cabine, flanqué de Mral d'un côté et d'Adrotagia de l'autre. Il émergea à la lumière du soleil face au spectacle de la ville côtière étouffante qui possédait d'immenses formations en terrasse, pareilles à des plaques ou des sections de schiste écorce avec les vestiges de la cité qui les recouvrait et débordait pratiquement sur les côtés. Autrefois, ce spectacle avait été stupéfiant. À présent, tout était noir, car tous les bâtiments, même le palais, étaient détruits. Védénard, l'une des plus grandes cités au monde, n'était désormais guère plus qu'un tas de décombres et de cendres. Tara Vangian s'attarda près de la rambarde. Lorsque son navire était entré dans le port la veille au soir, la ville était ponctuée par la lueur rouge des bâtiments en flammes. Ils avaient semblé vivants, plus vivants que ce spectacle. Le vent soufflait depuis l'océan vers l'intérieur des terres et le poussait par derrière. Il balayait la fumée vers l'intérieur, à l'écart du navire, si bien que Tara Vangian en percevait à peine l'odeur. Une cité entière incendiée juste au-delà du bout de ses doigts, et cependant, la puanteur s'évanouissait au vent. La saison des pleurs surviendrait bientôt. Peut-être effacerait-elle une partie de cette destruction. « Venez, Vargo, » lui dit Adrotagia. « Ils attendent. » Il hocha la tête et se joignit à elle pour monter dans le canot qui devait les amener à terre. Autrefois, cette cité avait possédé des quais impressionnants. Ce n'était désormais plus le cas. Une faction les avait détruits pour tenter d'empêcher les autres d'entrer. « C'est incroyable !» déclara Mral en s'asseyant dans l'embarcation à côté de lui. Ne disiez-vous pas que vous ne seriez plus jamais satisfait ? Répondit Tara Vangian, dont l'estomac se souleva lorsqu'il vit l'un des amas en lisière de la ville. Des corps. Je ne suis pas satisfait, rétorqua Mral, mais impressionné. Vous rendez-vous compte que la guerre des 80 entre Emul et Tukar a duré 6 ans sans produire un tel degré de désolation, loin s'en faut. Jacques Evède s'est dévoré lui-même en l'espace de quelques mois. « L'espiricante ?» murmura Adrotagia. « C'était bien plus que ça. Même dans son état douloureusement normal, Taravangian le comprenait. Oui, avec des spiricantes pour fournir de la nourriture et de l'eau, des armées pouvaient avancer rapidement, sans chariot ni ligne de ravitaillement pour les ralentir, et initier un massacre en un rien de temps. Cependant, Émule et Tukar possédaient eux aussi leurs propres spiricantes. Les marins se mirent à ramer pour les conduire à terre. « Il n'y avait pas que ça, » répondit Mral. « Chacun des hauts princes cherchait à s'emparer de la capitale. C'est ce qui les a fait converger. Il s'est presque produit la même chose que lors des guerres de certains des sauvages du Nord, où l'on désignait un lieu et un moment pour agiter les lances et psalmodier des menaces. Sauf qu'ici, ça a dépeuplé un royaume. » « Alors espérons, Mral, que vous soyez en train d'exagérer, » déclara Taravangian. « Nous allons avoir besoin de la population de ce royaume. » Il se détourna, ravalant une bouffée d'émotion lorsqu'il vit des cadavres sur les rochers du rivage. Des hommes qui étaient morts parce qu'on les avait poussés dans l'océan par-dessus le bord d'une falaise proche. Cette crête abritait normalement le quai des tempêtes majeures. En temps de guerre, on s'en était servi pour tuer, une armée repoussant l'autre en arrière jusqu'à la faire basculer. Adrotagia vit ses larmes, et, quoiqu'elle s'abstienne de commenter, elle afficha une moue désapprobatrice. Elle n'appréciait pas qu'il devienne aussi émotif lorsqu'il avait une intelligence limitée. Et cependant, il savait avec certitude que la vieille femme brûlait encore un charme glyphique chaque matin pour son défunt mari. Une action étrangement dévote pour des blasphémateurs comme eux. « Quelles sont les nouvelles du jour en provenance de chez nous ?» demanda Taravangian pour détourner l'attention des larmes qu'il essuyait. « Dova rapporte que le nombre de derniers soupirs que nous trouvons continue à baisser. Elle n'en a pas trouvé un seul hier, et seulement deux le jour d'avant. » « Dans ce cas, Moellac se déplace, » répondit Taravangian. « C'est maintenant une certitude. Quelque chose a dû attirer la créature à l'ouest. » « Que faire à présent ? Taravangian devait-il interrompre les meurtres ? Son cœur brûlait de le faire, mais s'il parvenait à découvrir ne serait-ce qu'une étincelle au sujet de l'avenir, un fait qui permettrait de sauver des centaines de milliers d'hommes, est-ce que ça ne mériterait pas de sacrifier la vie de quelques individus ? « Dites à Dova de continuer le travail, » ordonna-t-il. Il n'avait pas anticipé que leur alliance attirerait la loyauté d'un ardent, chose improbable entre toutes. Le diagramme et ses membres ne connaissaient pas de limites. Dova avait découvert leur travail par elle-même, et ils avaient dû choisir entre l'incorporer et l'assassiner. « Ce sera chose faite, » assura Adrotagia. Les rameurs les firent avancer le long de rochers plus lisses à la lisière du port, puis descendirent en sautant dans l'eau. Ces hommes faisaient partie de ses serviteurs et ils appartenaient au diagramme. Il leur faisait confiance, car il avait besoin de se fier à quelques personnes. « Avez-vous enquêté sur cet autre sujet comme je vous le demandais ?» s'enquit Taravangian. « C'est une question délicate à trancher, » répondit Adrotagia. L'intelligence exacte d'un homme est impossible à mesurer, même vos tests ne nous fournissent qu'une approximation. La vitesse à laquelle vous répondez aux questions et la façon dont vous le faites, eh bien, ça nous permet d'émettre un jugement, mais il est grossier. Les rameurs les traînèrent sur la plage rocheuse à l'aide de cordes. Le bois racla la pierre avec un bruit atroce. Au moins couvrait-il les gémissements non loin de là. Adrotagia tira une feuille de sa poche et la déplia. Y figurait un graphique avec des points reliés en dessinant une sorte de bosse, un petit chemin sur la gauche qui s'élevait en direction d'une montagne au centre, puis redescendait vers la droite selon une courbe similaire. J'ai pris les résultats des tests de vos 500 derniers jours et attribué à chacun un chiffre entre 0 et 10, expliqua Adrotagia. Une représentation de votre intelligence selon les jours, même si, comme je vous le disais, elle n'est pas exacte. « Et cette bosse vers le milieu ?» demanda Taravangian en la désignant. « Les jours où vous étiez d'une intelligence moyenne, » répondit Adrotagia. Vous passez la majeure partie de votre temps autour de cette zone-là, comme vous pouvez le constater. Les jours d'intelligence pure, comme les jours de stupidité extrême, sont rares. J'ai dû extrapoler à partir de ce dont nous disposons, mais je crois que ce graphique est à peu près exact. Taravangian hocha la tête, puis autorisa l'un des bateliers à l'aider à débarquer. Il s'était douté qu'il passait plus de jours dans la moyenne qu'ailleurs. Ce qu'il lui avait demandé de déterminer, en revanche, était le moment où il pouvait s'attendre à un autre jour comme celui au cours duquel il avait créé le diagramme. Il s'était écoulé des années depuis cette journée de maîtrise transcendante. Elle sortit du canot et Meral la suivit. Elle s'approcha de lui avec sa feuille. Alors voici le moment où j'ai été le plus intelligent, déclara Taravangian en désignant le dernier point du graphique. Il se situait loin sur la droite et très près du bas, une représentation de haute intelligence et une faible fréquence d'occurrence. C'était ce jour-là, ce jour de perfection. Non, répondit Adrotagia. Pardon. C'était le jour où vous avez été le plus intelligent au cours des 500 derniers jours, expliqua Adrotagia. Ce point représente le jour où vous avez achevé les problèmes les plus complexes que vous aviez établis pour vous-même, et celui où vous en avez créé de nouveaux à utiliser lors de tests futurs. Je me rappelle ce jour-là, répondit-il. C'est celui où j'ai résolu l'énigme de Fabrizant. Oui, confirma-t-elle. Le monde pourra vous en remercier un jour, s'il survit. J'étais intelligent ce jour-là, dit-il. Assez pour que Mral ait déclaré qu'il fallait l'enfermer dans le palais, de crainte qu'il ne dévoile sa nature. Il était alors persuadé que s'il pouvait simplement expliquer son état à la cité, tous entendraient raison et le laisseraient contrôler parfaitement leur vie. Il avait rédigé un texte de loi exigeant que tous les gens dont l'intelligence était au-dessous de la moyenne se voient imposer le suicide pour le bien de la ville. Ça lui avait semblé raisonnable. Il avait bien envisagé le risque qu'ils puissent résister, mais avait estimé que le génie de l'argument les ferait changer d'avis. Oui, il avait été intelligent ce jour-là, mais pas autant, loin s'en fallait, que le jour du diagramme. Il inspecta la feuille, pensif.
« Voilà pourquoi je ne peux pas répondre à votre question, Vargo, » déclara Adrotagia. « Ce graphique est ce que nous appelons une échelle logarithmique. » Tous les écarts par rapport à ce point central ne sont pas égaux. Ils s'additionnent à mesure que l'on s'éloigne. Quel était au juste votre degré d'intelligence le jour du diagramme? 10 fois plus que votre maximum habituel?
100 fois, répondit Taravangian en étudiant le graphique.
Peut-être plus. Laissez-moi faire le calcul. N'êtes-vous pas stupide aujourd'hui?
Pas stupide. « Dans la moyenne, je suis capable de calculer ça. Chaque écart horizontal est... »«
Une modification mesurable de votre intelligence, » répondit-elle. « On pourrait dire que chaque écart sur le côté représente une multiplication de votre intelligence par 2, quoique ce soit difficile à quantifier. Les écarts vers le haut sont plus faciles. Ils mesurent à quelle fréquence surviennent les jours que vous passez à un niveau d'intelligence donné. Donc... si vous commencez au milieu du pic, vous voyez que pour 5 jours que vous passez dans la moyenne, vous en passez 1 à être légèrement stupide et 1 à être légèrement intelligent. Pour 5 de cela, vous passez une journée à être modérément stupide et une à être modérément génial. Pour 5 de cela, debout sur les rochers, Taravangian se mit à compter sur le graphique tandis que ses soldats attendaient en haut. Il progressa le long de l'axe vertical du graphique jusqu'à atteindre le point où il devinait que le jour du diagramme avait pu se situer. Et ça lui semblait encore une estimation très prudente. « Nom du Tout-Puissant, » murmura-t-il. « Des milliers de jours, des milliers et des milliers. Ça n'aurait jamais dû se produire. »
« Bien sûr que si, » répondit-elle.
« Mais c'est tellement improbable que c'en est quasiment impossible. »«
C'est parfaitement possible, »
affirma-t-elle. La probabilité que ça se soit produit existe, car c'est déjà arrivé. C'est l'un des aspects les plus singuliers que présentent les probabilités et les données aberrantes, Tara Vangiane. Un jour comme celui-là pourrait se reproduire demain, rien ne l'interdit. Ce n'est qu'une question de chance pure, pour autant que je puisse le déterminer. Mais si vous voulez connaître la probabilité que ça se répète demain, il hocha la tête. Si vous deviez vivre encore 2000 ans, Vargo, vous bénéficieriez peut-être d'une seule journée comme celle-là. Peut-être. Je dirais que les chances sont à peu près égales. Mral ricana. Alors c'était de la chance. Non, une simple question de probabilité. Quoi qu'il en soit, déclara Tara Vangiane en repliant la feuille, ce n'était pas la réponse que je voulais. Depuis quand ce que nous voulons a-t-il de l'importance ? Jamais, répondit-il, et ça n'en aura jamais. Il rangea la feuille dans sa poche. Ils se mirent à gravir les rochers, dépassant des corps gonflés d'être restés trop longtemps au soleil, et rejoignirent un petit groupe de soldats en haut de la plage. Ils portaient les armoiries orange brûlées de Carbrandt. Il avait peu de soldats à son nom. Le diagramme nécessitait que sa nation apparaisse comme non menaçante. Le diagramme, cependant, n'était pas parfait. Ils y découvraient parfois des erreurs. Enfin, pas vraiment des erreurs, mais des suppositions erronées. Tara Vangiane avait peut-être été d'une intelligence suprême ce jour-là, mais il n'avait pas été en mesure de prévoir l'avenir. Il avait émis des suppositions éclairées, très éclairées, et avait eu raison une stupéfiante proportion du temps. Mais plus il s'éloignait de ce jour et de la connaissance qu'il avait alors possédée, plus le diagramme avait besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on le cultive pour ne pas dévier de sa ligne directrice. C'était pour cette raison qu'il avait espéré bénéficier bientôt d'une autre journée comme celle-là. Une journée pour repenser le diagramme. Ce jour-là ne viendrait probablement jamais. Ils allaient devoir continuer en se fiant à cet homme qu'il avait été un jour, en se fiant à sa vision et à sa compréhension. Ça valait déjà mieux que tout ce que le monde recelait d'autre. Les dieux et la religion les avaient abandonnés. Les rois et les clarissimes étaient des créatures égoïstes et mesquines. S'il devait se fier à une chose en laquelle croire, ce serait lui-même, et le génie pur d'un esprit humain sans entrave. Cependant, il était parfois difficile de maintenir le cap, surtout lorsqu'il affrontait les conséquences de ses actions. Ils entrèrent sur le champ de bataille. La majeure partie des combats s'était apparemment déplacée en dehors de la ville une fois que l'incendie avait commencé. Les hommes avaient continué à se faire la guerre pendant que leur capitale brûlait. 7 factions. Le diagramme en avait deviné 6. Ce détail importerait-il ? Un soldat lui tendit un mouchoir parfumé à tenir devant son visage lorsqu'il passerait près des morts et des mourants. Le sang et la fumée. Des odeurs qu'il viendrait à connaître beaucoup trop bien avant que tout ça ne prenne fin. Des hommes et des femmes portant la livrée orange brûlée de Carbrandt triaient les morts et les blessés. Dans tout l'Est, cette couleur était devenue synonyme de guérison. En effet, des tentes arborant sa bannière, la bannière du chirurgien, ponctuait le champ de bataille. Les guérisseurs de Tara Vangiane étaient arrivés juste avant les combats et s'étaient mis aussitôt à soigner les blessés. Tandis qu'ils quittaient les champs des morts, des soldats Veden assis au bord du champ de bataille commencèrent à se lever, en proie à une stupeur qui voilait leurs regards. Puis ils se mirent à l'acclamer. Par l'esprit de Pali, déclara Adrotagia en les regardant se lever. « Je n'arrive pas à y croire. » Les soldats assis formaient des groupes séparés par des bannières, et les chirurgiens, porteurs d'eau et consolateurs de Tara Vangiane s'occupaient d'eux. Blessés ou indemnes, tous ceux qui étaient capables de se tenir debout se levèrent pour acclamer le roi de Carbrandt. « Le diagramme disait que ça se produirait, » déclara Tara Vangiane.
« J'étais persuadée qu'il s'agissait d'une erreur, » répliqua-t-elle en secouant la tête.
« Ils savent, » répondit Mral. « Nous sommes les seuls vainqueurs à ce jour.
nos guérisseurs qui ont gagné le respect de tous côtés, nos consolateurs qui aident les mourants à passer. Leurs clarissimes ne leur ont apporté que le malheur. Vous leur avez apporté la vie et l'espoir. « Je leur ai apporté la mort, » murmura Tara Vangian. Il avait ordonné l'exécution de leur roi, ainsi que des hauts princes spécifiques indiqués par le diagramme. Ce faisant, il avait poussé les diverses factions à se faire la guerre. Il avait mis ce royaume à genoux. À présent, il l'acclamait pour ça. Il se força à s'arrêter auprès de l'un des groupes, à s'enquérir de leur santé, à demander s'il pouvait faire quoi que ce soit pour eux. Il était important que le peuple le perçoive comme un homme compatissant. Le diagramme l'expliquait avec un détachement extrême, comme si la compassion était quelque chose que l'on puisse mesurer dans une coupe à côté d'une pinte de sang. Il rendit visite à un autre groupe de soldats, puis à un troisième. Beaucoup s'approchèrent de lui, touchèrent ses bras ou sa robe, versant des larmes de gratitude et de joie. Un nombre encore plus grand de soldats Veden resta cependant assis dans les tentes, à regarder les champs des morts, l'esprit engourdi. « Le frisson ?» murmura-t-il à Adrotagia lorsqu'ils quittèrent le dernier groupe d'hommes. « Ils se sont battus toute la nuit pendant que leur capitale brûlait. Ils devaient être en force. »«
Je suis d'accord, » répondit-elle. « Ça nous fournit un point de référence supplémentaire. Le frisson est au moins aussi fort ici qu'en Aletkar. Peut-être même encore plus. »
« Je vais parler à nos érudits. Ça nous aidera peut-être à localiser Nergaoul. »«
N'y consacrez pas trop d'efforts, » intervint Tara Vangian en approchant d'un autre groupe de soldats Veden. « Je ne suis pas sûr de ce que nous ferions même si nous le trouvions. »
Ils n'avaient pas les ressources pour affronter un Spren ancien et maléfique. Pas encore, en tout cas.
« Je préférerais savoir où Moellac se dirige. » Avec un peu de chance, Moellac n'avait pas décidé de retomber dans le sommeil. Les derniers soupirs leur avaient, jusqu'à présent, offert le meilleur moyen qu'ils aient trouvé pour compléter le diagramme. Il y avait cependant une réponse qu'ils n'étaient jamais parvenus à déterminer, une réponse qu'il aurait presque tout donné pour connaître. Est-ce que tout ça suffirait? Il rencontra les soldats et adopta l'air d'un vieil homme bienveillant, encore que pas très intelligent, aimant et serviable. En réalité, il était presque cet homme-là aujourd'hui. Il s'efforçait de produire une imitation de lui-même lorsqu'il était un peu plus idiot. Les gens acceptaient cet homme-là, et lorsqu'il se trouvait à ce niveau-là d'intelligence, il avait beaucoup moins besoin de feindre la compassion que lorsqu'il était plus brillant. Béni par l'intelligence, maudit par la compassion qui le faisait souffrir pour ce qu'il avait fait. Elle lui venait en sens inverse. Pourquoi ne pouvait-il pas posséder les deux à la fois? Il ne pensait pas que chez les autres, l'intelligence et la compassion soient liées de cette manière. Les motivations dictant les faveurs et malédictions de la veille nuit étaient totalement obscures. Tara Vangian traversa la foule, écoutant les hommes le supplier de les soulager davantage et de leur accorder des médicaments pour apaiser leurs douleurs, écoutant leurs remerciements. Ces soldats avaient subi un combat qui ne semblait, encore maintenant, n'avoir aucun vainqueur. Ils voulaient quelque chose à quoi s'accrocher, et Tara Vangian était neutre, ou censé l'être. Il était stupéfiant de voir avec quelle aisance ils dénudaient leur âme devant lui. Il arriva au soldat suivant de la file, un homme vêtu d'une cape qui serrait son bras, apparemment cassé. Tara Vangian regarda droit dans ses yeux, aux paupières tombantes. C'était Seth, fils Valano. Tara Vangian éprouva un moment de panique absolue.
« Il faut que nous parlions, » lui dit le Chinov.
Tara Vangian saisit l'assassin par le bras et l'entraîna à l'écart de la foule de soldats Veden. De son autre main, Tara Vangian chercha dans sa poche la pierre de serment qu'il portait constamment sur lui. Il la sortit, simplement pour vérifier. Non, ce n'était pas un faux. Damnation. Voir Seth apparaître là lui avait fait croire qu'on l'avait battu d'une manière ou d'une autre, qu'on lui avait volé la pierre et qu'on envoyait Seth le tuer.
Seth se laissa entraîner. Qu'avait-il dit ?
Qu'il fallait qu'il te parle, crétin, se dit Aravangian. S'il était venu te tuer, tu serais déjà mort.
Seth avait-il été aperçu ici ? Que diraient les gens s'ils voyaient Aravangian interagir avec un Chinov au crâne chauve ? Des rumeurs naissaient pour moins que ça. Si quiconque avait le moindre soupçon que Aravangian soit lié au tristement célèbre assassin en blanc...
Mral remarqua aussitôt que quelque chose n'allait pas. Il aboya des ordres aux gardes, séparant Aravangian des soldats Veden. Adrotagia, qui se tenait assise près de là, bras croisés, et regardait la scène en tapant du pied, se leva brusquement pour s'approcher. Elle jeta un coup d'œil à la personne qui se trouvait sous le capuchon, puis eut le souffle coupé, et toute couleur déserta son visage.
« Comment osez-vous venir ici ?» chuchota Aravangian à Seth, tout en conservant une pose et une expression enjouée. Il n'était aujourd'hui que d'une intelligence moyenne, mais il restait un roi, élevé et formé à la cour. Il savait garder son sang-froid.
« Un problème est survenu, » déclara Seth, le visage caché par son capuchon, la voix dépourvue d'émotion.
Parler à cette créature revenait à parler avec un mort.
« Pourquoi avez-vous échoué à tuer Dalinar Colin ?»
demanda Adrotagia avec une insistance tranquille.
« Nous savons que vous avez pris la fuite. Retournez accomplir votre mission. »
Seth lui lança un coup d'œil, mais ne répondit pas. Elle ne détenait pas sa pierre de serment. Il sembla cependant prendre note de sa présence avec ses yeux trop vides. Damnation. Leur plan avait consisté à empêcher Seth de rencontrer Adrotagia ou d'entendre parler d'elle, au cas où il déciderait de se retourner contre Aravangian et de le tuer. Le diagramme formulait cette possibilité.
« Colin a un fluctomancien, » répondit Seth.
Donc, Seth était au courant de l'existence de Jasnah. Avait-elle donc simulé sa propre mort, comme il l'avait soupçonné ?
Damnation.
Le silence sembla tomber sur le champ de bataille. Aux oreilles de Aravangian, les gémissements des mourants s'estompèrent. Tout se réduisit à Seth et à lui. Ses yeux, l'intonation de sa voix, une intonation dangereuse.
Qu'est-ce qui... Il a parlé avec émotion, comprit Aravangian. Cette dernière phrase a été prononcée avec passion.
Elle avait ressemblé à une supplication, comme si l'on pressait la voix de Seth sur les côtés. Cet homme n'était pas saint d'esprit. Seth, fils Valano, était l'arme la plus dangereuse de tout Rochard, et il était brisé. Nom des bourrasques, pourquoi tout ça ne s'était-il pas produit un jour où Aravangian possédait plus de la moitié de son esprit ?
« Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?»
demanda celui-ci, qui s'efforçait de gagner du temps afin que son esprit passe pesamment en revue les implications de cette information. Il tenait devant lui la pierre de serment de Seth, comme si elle pouvait lui permettre d'éloigner les problèmes à la manière des charmes glyphiques d'une femme superstitieuse.
« Je l'ai combattu, » expliqua Seth. « Il a protégé Colin. »
« Ah oui, » répondit Aravangian, réfléchissant furieusement. Seth avait été banni de Shinovar, rendu avérite pour avoir déclaré que les Néantifères étaient revenus. S'il découvrait qu'il ne s'était pas trompé dans son affirmation, alors qu'est-ce...
Il ? Vous avez combattu un fluctomancien ?
Demanda Adrotagia avec un coup d'œil furtif à Aravangian.
Oui, confirma Seth, un Aleti qui se nourrissait de fulgiflammes. Il a guéri un bras tranché par une lame. C'est un radieux.
Cette tension dans sa voix était inquiétante. Aravangian regarda les mains de Seth. Elles se crispaient parfois comme des cœurs en train de battre pour former des points.
« Non, non, » répondit Aravangian. « Je ne l'ai appris que récemment. Oui, tout ça semble logique à présent. L'une des lames d'honneur a disparu. »
Seth cligna des yeux. et il se concentra sur Taravangian comme s'il revenait d'un endroit lointain.
Une des sept autres ?
Oui, répondit Taravangian.
Je n'ai entendu que des allusions, votre peuple est très secret.
Mais oui, je crois, c'est l'une des deux qui permettent la régénération.
C'est Colline qui doit la posséder.
Seth oscillait d'arrière en avant, quoiqu'il semble inconscient de ce mouvement.
Encore maintenant, il bougeait avec la grâce d'un combattant. Nom des foudres.
Cet homme que j'ai combattu, déclara Seth, n'a pas invoqué de l'âme.
Mais il a utilisé la fulgiflamme, rétorqua Taravangian.
Oui.
Donc il doit avoir une lame d'honneur.
C'est la seule explication.
C'est... La voix de Seth se fit plus glaciale.
Oui, la seule explication. Je vais le tuer et la récupérer.
Non, déclara Taravangian d'une voix ferme. Vous devez retourner vers Dalinar Colline et accomplir la tâche qui vous est attribuée. Ne combattez pas cet autre homme. Attaquez en son absence.
Mais est-ce moi qui possède votre pierre de serment ?
Demanda Taravangian d'une voix insistante.
Mes ordres doivent-ils être remis en cause ?
Seth cessa de se balancer.
Son regard se fixa sur celui de Taravangian.
Je suis Avérite, je fais ce qu'ordonne mon maître et je ne demande pas d'explication.
Tenez-vous à l'écart de l'homme à la lame d'honneur, répéta Taravangian. Tuez Dalinar.
Ce sera fait.
Seth se détourna et s'éloigna d'un pas vif.
Taravangian eut envie de lui crier des instructions supplémentaires.
« Ne laissez personne vous voir. Ne revenez jamais me trouver en public. »
Au lieu de quoi, il s'assit là, sur le chemin, perdant peu à peu sa contenance. Il tremblait, haletait, le front ruisselant de sueur.
« Père des tempêtes !» déclara Adrotagia en s'asseyant par terre à côté de lui. « J'ai cru que nous étions morts. »
Des serviteurs apportèrent un siège à Taravangian tandis que Mral lui inventait des excuses.
Le roi a été rassé par le chagrin face à tous ces morts. Il est âgé, vous comprenez, et tellement plein d'empathie.
Taravangian inspirait et expirait, luttant pour retrouver son sang-froid. Il se tourna vers Adrotagia, assise au milieu d'un cercle de serviteurs et de soldats, tous fidèles au diagramme.
Qui est-ce ? Demanda-t-il tout bas. « Qui est ce fluctome ancien ?»«
La pupille de Jasna ?» demanda Adrotagia.
Ils avaient été stupéfaits quand la jeune fille était arrivée dans les plaines brisées. Ils émettaient déjà l'hypothèse qu'elle avait été formée, sinon par Jasna, du moins par son propre frère avant sa mort.
« Non, » répondit Taravangian. « C'est un homme, un membre de la famille de Dalinar. »
Il réfléchit un moment.
Nous avons besoin du diagramme lui-même.
Elle s'en alla le chercher à bord du navire. Rien d'autre n'importait pour l'heure. Ni les visites de Taravangian aux soldats, ni les rendez-vous plus importants avec les dirigeants Veden.
Le diagramme se trompait. Il s'aventurait sur un territoire dangereux.
Elle revint en l'apportant, accompagnée des fulgiciens, qui dressèrent une tente autour de Taravangian, là où il se trouvait, en plein milieu du chemin. La litanie des excuses se poursuivait.
Le roi est affaibli par le soleil. Il faut qu'il se repose et brûle des charmes glyphiques adressés au Tout-Puissant pour la sauvegarde de votre nation. Taravangian se soucie de vous tandis que votre propre Paliris vous envoie au massacre.
À la lueur des sphères, Taravangian parcourut le volume, s'absorbant dans la traduction de ses propres mots écrits dans une langue qu'il avait inventée puis oubliée.
Des réponses. Il lui fallait des réponses.
Vous ai-je jamais dit à Dro ce que j'avais demandé ?
Chuchota-t-il tout en lisant.
Oui.
Il l'écoutait à peine.
La capacité, murmura-t-il en tournant une page,
la capacité d'arrêter ce qui se préparait, la capacité de sauver l'humanité. Il continua à chercher. Il n'était pas au mieux de son intelligence aujourd'hui, mais il avait passé bien des jours à lire ces pages, à relire et relire encore certains passages. Il les connaissait. Les réponses s'y trouveraient, forcément. Tara Vangian n'adorait plus qu'un seul dieu désormais, l'homme qu'il avait été ce jour-là. Ici. Il le trouva sur une reproduction d'un coin de sa chambre, où il avait entassé des phrases les unes au-dessus des autres, dans une écriture minuscule parce qu'il manquait d'espace. Avec la clarté d'esprit que lui conférait le génie, les phrases lui avaient semblé faciles à séparer. Mais il avait fallu des années à ces érudits pour reconstituer leur sens. Ils viendront. Vous ne pouvez pas les empêcher de prêter serment. Cherchez ceux qui survivront lorsqu'ils ne devraient pas. Ce motif sera votre indice. Les hommes de pont, murmura Tara Vangian. Pardon ? Demanda Adrotagia. Tara Vangian leva la tête, clignant ses yeux larmoyants. Les hommes de pont de Dalinar, ceux qu'il a pris à Sadeas, avez-vous lu les récits de leur survie ?
Ça ne m'a pas semblé important, rien qu'un nouveau jeu de pouvoir entre Sadeas et Dalinar.
Non, il y a autre chose. Ils avaient survécu. Tara Vangian se leva. Réveillez tous les dormeurs à l'Eti dont nous disposons. Envoyez tous les agents dans la zone. Il doit y avoir des récits sur l'un de ces hommes de pont. Une survie miraculeuse, un favori des vents. Il y en a un parmi eux. Il ne sait peut-être pas encore précisément ce qu'il fait. Mais il s'est lié avec un spren et a prêté serment au premier idéal, au moins.
Et si nous le trouvons ? Demanda Adrotagia.
Nous le tenons à l'écart de 7. Quoi qu'il en coûte. Tara Vangian lui tendit le diagramme. Nos vies en dépendent. Seth est une bête qui ronge sa propre patte pour échapper à ses liens. S'il se libère...
Elle hocha la tête et s'en alla exécuter ses ordres. Elle hésita à l'ouverture de leur tente provisoire.
Nous allons peut-être devoir réévaluer nos méthodes pour déterminer votre intelligence. Ce que j'ai vu au cours de la dernière heure me pousse à me demander quelle moyenne peut vous être appliqué aujourd'hui.
Les estimations ne sont pas inexactes, répondit-il. C'est simplement que vous sous-estimez l'homme moyen.
Par ailleurs, lorsqu'il étudiait le diagramme, il ne se rappelait pas ce qu'il avait écrit ni pourquoi, mais il y avait parfois des échos. Elle sortit, cédant le passage à Mral lorsqu'il entra.
« Majesté, dit-il. « Le temps nous manque. Le haut prince est mourant. »«
Voici des années qu'il est mourant. »
Malgré tout, Tara Vangian pressa le pas, dans la mesure où il en était capable ces jours-ci, et reprit son trajet. Il ne s'arrêta plus auprès des soldats et ne répondit que par de brefs signes de main aux acclamations qu'il recevait. Enfin, Mral le conduisit au sommet d'une colline, à l'abri de la puanteur immédiate du combat et de la ville en flammes. Il y découvrit une série de chariots tempêtes qui arboraient une bannière optimiste, celle du roi de Jacques Évède. Les gardes laissèrent Tara Vangian entrer dans leur cercle de chariots, et il approcha du plus grand, un énorme véhicule qui ressemblait presque à un immeuble mobile sur roues. Ils trouvèrent le haut prince Valam, le roi Valam, dans son lit, en proie à une quinte de toux. Ses cheveux étaient tombés depuis la dernière fois que Tara Vangian l'avait vu, et ses joues étaient tellement creuses que l'eau de pluie s'y serait accumulée. Redin, le fils bâtard du roi, se tenait au pied du lit, tête baissée. Avec les trois gardes qui se tenaient dans la pièce, il n'y avait pas de place pour Tara Vangian, qui s'arrêta donc sur le pas de la porte.
« Tara Vangian !» lui dit Valam avant de tousser dans son mouchoir qu'il tacha de sang. « Vous êtes venu pour mon royaume, n'est-ce pas ?»«
J'ignore de quoi vous parlez, Majesté, » répondit Tara Vangian.
« Ne jouez pas les saintes ni touches,
aboya Valam. « Je ne supporte ni chez les femmes, ni chez les rivaux, père des tempêtes. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de vous. Je suis à moitié persuadé qu'ils vous auront fait assassiner avant la fin de la semaine. »
Il décrivit un signe d'une main maladive, entièrement enveloppée de tissu, et les gardes s'écartèrent pour que Taravangian entre dans la petite chambre à coucher.
« C'était un brillant stratagème, déclara le roi, d'envoyer cette nourriture, ces guérisseurs. Les soldats vous aiment, à ce que j'ai entendu. Qu'auriez-vous fait si l'une des parties avait remporté une victoire décisive ?»«
J'aurais gagné un nouvel allié, répondit Taravangian, reconnaissant que je l'aide.
Vous avez aidé toutes les parties. »
« Mais le gagnant plus que les autres, Majesté, » répondit Taravangian. « Nous pouvons nous occuper des survivants, mais pas des morts. »
Valam fut pris d'une nouvelle quinte de toux sèche qui le secoua tout entier. Son bâtard s'approcha, inquiet, mais le roi lui fit signe de reculer.
« J'aurais dû me douter, bâtard !»
lui dit le roi entre deux respirations sifflantes.
« Que tu serais le seul de mes enfants à vivre !»
Il se tourna vers Taravangian.
« Il s'avère que vous avez un droit légitime à la couronne, Taravangian, du côté de votre mère, je crois. Un mariage à une princesse Védène il y a 3 générations ?»«
Je ne suis pas au courant, » répondit Taravangian.
Qu'est-ce que je vous disais sur le fait de jouer les Saintes Nitouches ?
Nous avons tous deux un rôle à jouer dans cette mise en scène, Majesté, répondit Taravangian. Je me contente de prononcer les répliques telles qu'elles ont été écrites.
Vous parlez comme une femme,
répondit Valam, qui cracha du sang sur le côté.
Je sais ce que vous mijotez. D'ici une semaine environ, après vous être occupé de mon peuple, vos scribes vont découvrir votre droit à la couronne. Vous interviendrez à contre-cœur pour sauver le royaume sur l'insistance de mon foudre de peuple lui-même.
Je vois qu'on vous a lu le scénario, répondit Taravangian d'une voix douce.
L'assassin viendra s'en prendre à vous.
Peut-être bien, c'était la vérité.
« Je ne sais même pas pourquoi j'ai essayé de m'emparer de ce trône !»
répondit Valam.
« Au moins je mourrai en tant que roi !»
Il prit une profonde inspiration, puis leva la main et désigna d'un geste impatient les scribes qui se pelotonnaient à l'extérieur de la chambre. Les femmes s'animèrent et regardèrent au-delà de Taravangian.
« Je désigne cet idiot comme mon héritier !»
déclara Valam en le désignant.
« Ah ! Que les autres hauts princes méditent ça !»«
Ils sont morts, Majesté, » répondit Taravangian.
« Quoi ? Tous ?»«
Oui. »«
Même Boryar ?»«
Oui. »«
Ah ! » commenta Valam. « Bâtard !»
Taravangian crut tout d'abord qu'il s'agissait d'une référence à l'un des défunts, mais il remarqua ensuite que le roi faisait signe à son fils illégitime. Redin s'avança et se mit sur un genou près du lit où Taravangian lui cédait la place. Valam se débattit pour tirer quelque chose de sous ses couvertures. Son couteau. Redin l'aida à l'en sortir, puis le tint maladroitement. Taravangian inspecta ce Redin, curieux. C'était là l'exécuteur impitoyable du roi dont il avait lu la description. Cet homme inquiet a l'air impuissant.
En plein cœur,
ordonna Valam.
Père, non, protesta Redin.
En plein cœur, nom des foudres,
cria Valam en aspergeant son drap de salive sanglante.
Je refuse de rester allongé ici à attendre que Taravangian persuade mes propres serviteurs de m'empoisonner. Vas-y, mon garçon, à moins que tu ne sois capable de rien faire, qui.
Redin abattit le couteau dans la poitrine de son père avec une telle force qu'elle fit sursauter Taravangian. Redin se leva ensuite, salua et quitta la pièce. Le roi laissa échapper un dernier soupir et son regard se voila.
Alors la nuit régnera, car le choix de l'honneur et la vie Clara Vangiane haussa un sourcil. Un dernier soupir. Ici, maintenant, bourrasque. Et il n'était pas en situation de rédiger la formulation exacte. Il allait devoir s'en souvenir. La vie de Valam lui échappa, jusqu'à ce qu'il ne reste de lui qu'une simple enveloppe de chair. Une lame d'éclat se matérialisa à côté de lui à partir de vapeurs, puis tomba lourdement sur le fond en bois du chariot. Personne ne tenta de s'en emparer, et les soldats présents dans la pièce et les scribes à l'extérieur se tournèrent vers Tara Vangiane, puis s'agenouillèrent. « C'est cruel ce que Valam lui a fait, » commenta Mral en désignant le bâtard, qui se fraya un chemin hors du chariot tempête pour rejoindre la lumière. « Plus que vous ne l'imaginez, » répondit Tara Vangiane, la main tendue pour toucher le couteau qui saillait de la poitrine du vieux roi à travers la couverture et les vêtements. Il hésita, les doigts à quelques centimètres du manche. Le bâtard sera connu comme parricide dans l'histoire officielle. S'il portait le moindre intérêt au trône, ça lui rendra les choses quelque peu compliquées, encore davantage que ses origines. Tara Vangiane éloigna les doigts du couteau. Puis-je avoir un moment avec le roi mort? Je souhaiterais dire une prière pour lui. Les autres sortirent, même Mral. Ils refermèrent la petite porte et Tara Vangiane s'assit sur le tabouret près du cadavre. Il n'avait aucune intention de prononcer quelque prière que ce soit, mais il voulait bel et bien un moment, seul, pour réfléchir. Ça avait fonctionné, exactement comme le diagramme l'avait enseigné. Tara Vangiane était roi de Jakhéved. Il avait accompli le premier pas majeur vers l'unification du monde, que Gavilar présentait comme nécessaire s'il voulait survivre. C'était du moins ce qu'avaient proclamé les visions, celles que Gavilar lui avait confiées 6 ans auparavant, la nuit de la mort du roi Aleti. Gavilar avait reçu des visions du Tout-Puissant, qui était également mort à présent, et d'une tempête en approche. Unissez-les. Je fais de mon mieux, Gavilar, murmura Tara Vangiane. Je suis tellement désolé de devoir tuer votre frère. Quand tout ça serait fini, ce ne serait pas le seul péché qu'il porterait sur ses épaules, ni d'une brise, ni d'une bourrasque. Il regretta une fois de plus de ne pas connaître l'un de ses jours de génie. Alors, il ne se serait pas senti si coupable.